Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux qui ne fait pas le pont. Et on retrouve autour du micro donc Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Et cette semaine, peu de nouveautés, 7 nouveautés, peu de qualité aussi, on va bien le dire. Il y a La Planète des Singes, Nouveau Royaume, L'Esprit Coubertin, Comme un lundi, Neuilly-Poissy. Et puis Blue et compagnie, Super Lion et Wake Up. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale, ça a été très compliqué de trouver des titres. Mais bon, après tout, pourquoi pas. On va passer des gens totalement inconnus, en tous les cas, moi je ne les connais pas. C'est un titre qu'on entend dans L'Esprit Coubertin, ça s'appelle My Oh My Aqua. Je ne sais pas ce que c'est ce My Oh My Aqua, mais en tous les cas, on entend ce titre dans le film L'Esprit Coubertin. Voilà, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans, My Oh My. My, oh my, à quoi ? Ben, Pierre connaissait à quoi ?
Oui, ils ont fait quelques succès et je crois même que c'est un groupe suédois. Je suis pas sûr, mais
d'accord.
Il me semble.
Ok, bon. La Maï Maï, on entend ça dans le film L'Esprit Coubertin, il me semble que c'est dans une scène de boîte de nuit. Voilà. La planète des singes, le nouveau royaume. Le film est proposé au Méga CGR, au Pâté Quinconce, au Colisée. Il y a quelques VO au Colisée et au Pâté Quinconce. Mais par contre, il y a alors au Pâté Quinconce de la 4DX et puis au Méga CGR de la ICE. Voilà ce film, c'est Pierre qui vous en parle.
Durée 2h25, le titre original c'est Kingdom of the Planet of the Apes. Le synopsis, plusieurs générations après le règne de César, les singes ont définitivement pris le pouvoir. Les humains, quant à eux, ont régressé à l'état sauvage et vivent en retrait. Alors qu'un nouveau chef tyrannique construit peu à peu son empire, un jeune singe entreprend un périlleux voyage qui l'amènera à questionner tout ce qu'il sait du passé et à faire des choix qui définiront l'avenir des singes et des humains.
Alors avant de passer à la rue de presse, précisons que le film est un film réalisé par Wes Ball, réalisateur-producteur américain né en 1980. Il a à son actif un court-métrage et puis surtout la trilogie Le Labyrinthe, donc cette trilogie avec Le Labyrinthe en 2014, 2015 Le Labyrinthe, La Terre Brûlée, 2018 Le Labyrinthe, Le Remède Mortel, voilà, avec des acteurs comme Will Poulter, Dylan O'Brien.
La revue de presse, Le Parisien avec Renaud Baronian. Si le film met un peu trop de temps à se mettre en place, il fait ensuite carrément le job dans le genre pur divertissement. Décors naturels somptueux, interprétation au top des comédiens filmés avec la technique de la performance capture, effets spéciaux incroyablement bluffants, un grand spectacle. Première avec Pierre Lune, fini la métaphore, place à l'action. À la fois récit initiatique, grand film d'aventure multipliant les scènes ébouriffantes et film d'infiltration nerveux. Ce nouveau royaume rappelle au fond que le film de 1968 était autant une réflexion politique qu'une véritable série B, fun et excitante. L'Obs, avec Isabelle Danel, le récit efficace même si un peu réchauffé, porte un message écologique de bon aloi et ménage quelques effets sur l'instinct et les idées bien ancrées à travers un personnage d'humaine au dessin retors. La mise en scène, toujours très spectaculaire, nous entraîne dans la découverte d'univers grandioses bâtis sur des ruines et d'impressionnantes scènes d'attaque et de destruction. Le Point, avec Philippe Gage et Jean-Luc Wachthausen, réalisation classique et ample, traitement sobre, ébauche de réflexion anthropologique, à défaut de révolution, la saga simiesque connaît une évolution positive avec ce divertissement plus que décent qui détonne dans la mort de jungle, des blockbusters primaires. Et puis il y a ceux aussi qui n'ont pas aimé. Libération avec l'élo Jimmy Battista. Si la série de blockbusters avait jusque-là convaincu, son dernier volet, servi par des effets spéciaux monumentaux, perd en consistance. Le Monde. Le principal défaut du film de Wes Ball réside dans son récit d'une platitude désarmante, comme si le scénario s'était ingénié à éviter toute complication dialectique, tout envolé mythologique et réflexion morale, pour privilégier de longs et redondants moments de poursuite et d'échanges sentimentaux. Télérama, avec Augustin Pietron Locatelli, La Planète des Singes, le nouveau royaume est au mieux bavard, au pire confus. Personne ne se souvient de qui était vraiment César, mais tous brandissent son nom dans tous les sens. Les rapports de pouvoir des précédents opus se sont mués en enjeu de déformation de la parole de ce prophète, qui n'en était pourtant pas vraiment un.
Ben, je suis plutôt d'accord avec les dernières critiques. Techniquement, hein, rien à redire, hein, c'est toujours aussi impeccable en termes d'effets spéciaux et de direction artistique, avec des décors absolument époustouflants. Mais tout ça n'est quand même pas très nouveau. Hein. Tout ça, on l'avait déjà souligné dans les précédents, au moins les trois précédents Planète des Singes. C'est scénaristiquement que la suite de cette saga pêche, et pêche vraiment. Déjà, le film met un temps fou à vraiment démarrer, pratiquement une demi-heure, hein. Et par la suite, eh bien, le scénario, par la suite, il connaît de sérieux coups de mou entre quelques morceaux de bravoure. Ça, il y a quelques morceaux de bravoure. Ça, c'est clair, net et précis, mais il y a des gros coups de mou. Et après, la mort de César, Donc le film se passe après la mort de César, mais plusieurs siècles après. Et les enjeux de l'histoire, c'est quand même le vrai problème du film, parce que bon, ils sont pas exceptionnels. Hein. Voilà, donc on a un jeune singe, Nora, il s'appelle. Il voit son clan attaqué et réduit en esclavage par un clan plus puissant. Désormais, sa quête sera de délivrer les siens et, chemin faisant, il va rencontrer donc un vieux singe plein de sagesse qui va lui parler notamment de ce fameux César et de son enseignement, et puis une humaine. Donc les trois vont s'entraider pour atteindre leur but, et pour cela, ils vont devoir affronter un singe dictateur régnant sur son royaume, voilà, comme un tyran, voilà. Tout est loin d'être clair, en plus, dans cette histoire, et la fin annonce bien évidemment une suite, et elle m'a laissé assez perplexe, comme si tout le film n'était finalement qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans les années à venir, le temps d'installer donc les personnages et les situations. Et intuitivement, je crains la suite et je ne suis pas absolument certain d'aller la voir, parce que ce que semble annoncer le film... Bref, alors de quoi est-il vraiment question dans ce film? Bon, ben évidemment d'héroïsme, de combat pour la liberté, de la relation humain-singe, ce qui est en fait l'enjeu de toute la saga, bien sûr. Tout cela est long, très long, hein, 2h25, vous les sentez vraiment passer, et ce ne sont pas les qualités visuelles, alors ces qualités, je répète, elles sont indéniables, qui font de moi un convaincu, parce que elles sont réelles ces qualités, mais elles sont quand même insuffisantes pour m'avoir fait apprécier un film qui est pour moi le moins intéressant de la dernière trilogie. Reste le côté spectaculaire de certaines séquences, et là c'est clair que il est vraiment spectaculaire, mais bon, spectacle c'est bien gentil, mais bon, il n'y a pas du tout d'humour, hein, c'est très premier degré, et je suis resté assez perplexe, et je dois dire que je me suis quand même bien ennuyé à cette planète des singes, le nouveau royaume, et peut-être suis-je pas la cible pour ce genre de film, encore que, je répète, les trois précédents de la trilogie m'avaient relativement séduit et même m'avaient bien plu parce que les enjeux étaient intéressants. Voilà, La planète des singes, le nouveau royaume, c'est Oméga CGR, au Pâté Quinconce, au Colisée, avec quelques séances en VO. Je dois dire que je l'ai vu en VF et elle ne m'a pas choqué, la VF. L'Esprit Coubertin, c'est un film français, c'est un premier long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Jérémy Saint, réalisateur et scénariste. Auparavant, il a à son actif quelques courts-métrages et surtout des épisodes de la série Parlement. Et donc, ce film est proposé uniquement au Méga CGR. L'Esprit Coubertin, Pierre vous en parle.
Durée 1h18 avec Benjamin Voisin, Emmanuel Berco et Rivaldo Pawawi. Le synopsis, après 10 jours de compétition, les Jeux sont un fiasco pour la délégation française qui ne parvient pas à gagner de médaille d'or. Tous les espoirs de titre reposent désormais sur Paul, champion du monde de tir, mais à tête immature et pas très malin. Alors que la compétition approche, il est contraint de partager sa chambre avec un nageur qui semble plus préoccupé par les tentations extra-sportives du village que par sa course. La revue de presse, le journal du dimanche, une comédie singulière, gentiment incisive, mais pas sans tendresse envers ses personnages, qui se part d'une mise en scène travaillée et offre à Benjamin Voisin, formidable et bien entouré, un rôle en or. Télérama, avec Guillemette Odissino, très stylisé, un peu intemporel, avec ses couleurs primaires et ses décors en plastique, cette fable anxieuse sur un monde qui ne respecte que les meilleurs, semble trouver son inspiration farceuse du côté de Ricky Bobby, roi du circuit, la comédie d'Adam McKay, mais aussi dans les boîtes de Playmobil. Le casting particulièrement cohérent semble également animé par l'esprit d'équipe. La Croix, avec Corinne Renoux-Nativelle. Sur le mode de l'absurde, le réalisateur Jérémy Sain tourne les JO de Paris 2024 en dérision pour peut-être mieux revenir à leur essence avec un Benjamin Voisin excellent en champion de tir psychorigide. Le Parisien, avec Catherine Ball. L'Esprit Coubertin est une chronique grinçante de la vie d'un village olympique avec sa hiérarchie entre les disciplines, ses rituels festifs, ses bénévoles incompétents et sa ministre des sports, de l'égalité des genres et des collectivités territoriales totalement ignare. On s'amuse beaucoup de ces personnages un peu cinglés et, face à un Benjamin Voisin méconnaissable, Emmanuel Berco, très inspiré, semble s'éclater dans le registre comique. Ouest France avec Pascal Vergerot. Benjamin Voisin vaut le détour en champion de tir neuneux. Dernier espoir de médaille pour la France aux Jeux Olympiques de Paris. Il est l'atout principal de ce premier film de Jérémy Sain qui tire des rires mais manque un peu de souffle. L'Obs avec Nicolas Chalère. à l'exception de quelques piques amusantes sur les ridicules médiatico-sportifs, et malgré les efforts d'un Benjamin Voisin pour fabriquer un vrai personnage de BD, c'est sans rythme et paresseux. L'important, c'est peut-être de participer, mais mieux vaut être préparé. Et enfin, Le Monde, dans un contexte où tout le monde soumis à la caricature de sa fonction paraît ridicule, Benjamin Voisin et Emmanuel Berco parviennent à nous épater, les seuls à pouvoir prétendre au podium.
L'Esprit Coubertin, c'est uniquement au méga CGR. Alors, c'est une comédie quasiment d'actualité, hein, puisque c'est sur le thème du sport et des sportifs de haut niveau. En effet, à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, c'est un petit peu film d'anticipation, si on peut dire, hein. Et devant le fiasco des performances réalisées depuis 10 jours par les athlètes français en termes de médailles, rendez-vous compte, on est derrière Malte au tableau des médailles, ce qui nous vaut d'ailleurs une séquence très drôle, digne des meilleurs ou pires bêtisiers au tout début du film. Eh bien, les derniers espoirs français se portent sur Paul. Paul, c'est un tireur au pistolet, multiple champion du monde de sa spécialité. Mais voilà, Paul et son sport sont tout sauf grand public. Lui-même, eh bien, il est bourré de tics, plein de préjugés, raide dans son attitude physique et morale, et forme avec sa coach un tandem peu glamour pour les médias. En plus de ça, il doit partager sa chambre au village olympique avec un nageur du Vanuatu, qui est son exact opposé, beau gosse, serial dragueur et baiseur compulsif. Leur cohabitation va forcément faire des étincelles et surtout risque de déconcentrer Paul au point de lui faire perdre ses moyens. Ce qui serait donc une catastrophe nationale, puisque, je répète, on est tellement mal placé en termes de médailles que c'est pratiquement notre seul espoir de nous en sortir. Bizarrement, ben, le film n'est pas vraiment réussi. Ben oui, je dis bizarrement, le film n'est pas vraiment réussi. Et pourtant, la satire fait mouche par moments, grâce à certains dialogues et surtout grâce à ces personnages qui sont impeccablement interprétés. Alors, Benjamin Voisin est absolument méconnaissable. Si vous ne savez pas que c'est lui, vous ne pouvez pas le reconnaître. Il livre une interprétation absolument grandiose de ce Paul. Et puis, les seconds rôles sont aussi tout à fait savoureux. Donc, le film est bon sur les personnages. Ces personnages qui sont croqués avec humour, qui nous valent quelques scènes vraiment fort drôles. Et pourtant, eh ben, je répète, dans l'ensemble, la mayonnaise ne prend pas et finit par se perdre même dans les bons sentiments sur la fin. Donc, un avis extrêmement très mitigé, même s'il y a des moments vraiment très drôles. Par exemple, quand il est question des commentateurs sportifs, du chef de la délégation, membre du CIO, la ministre des Sports qui est en visite au village olympique. Ça, c'est des comme des sketchs. C'est excellent. Ça rappelle un petit peu, d'ailleurs, les Inconnus. Hein. Et voilà, ça suffit pas à faire un film. Voilà, ça s'appelle L'Esprit Coubertin et c'est proposé par le méga CGR, uniquement le méga CGR. Dans 3 minutes, on va parler de Comme un lundi. Dans Comme un lundi, on entend des chansons japonaises. Oui, on entend aussi ce titre, Time Machine. C'est un instrumental. Dans le film, on entend ce titre, donc dans Comme un lundi. Et là, c'est le moment d'écouter sur Radio Alpa. Time Machine, on entend cet instrumental, semble-t-il, dans le film Comme un lundi. Ben justement, c'est l'occasion d'en parler de Comme un lundi. C'est un film qui est proposé aux cinéastes, uniquement aux cinéastes. C'est un film japonais, évidemment proposé en version originale. C'est même un premier film d'un réalisateur qui s'appelle Ryo Takebayashi, réalisateur japonais. Son film dure 1h23, le titre original, Mondays, lundi. Voilà, comme un lundi, c'est le titre français. Votre boss vous harcèle, vos collègues vous épuisent, vous ne voulez plus retourner au bureau, vous n'imaginez pas ce que traversent Yoshikawa et ses collègues, car en plus des galères, ils sont piégés dans une boucle temporelle qui recommence chaque lundi. Entre deux rendez-vous clients, réussiront-ils à trouver la sortie ? Xavier Le Harper dans l'Obs, une comédie loufoque, sociale et fielleuse sur le monde du travail made in Japan. Outre la résolution sans cesse repoussée avec malice de cette fiction déjantée, le cinéaste brocarde le système hiérarchique qui prévaut dans les bureaux nippons. Catherine Ball dans Le Parisien, au-delà des gags, cette comédie propose une réflexion sur le sens du travail, la nécessité de vivre ses rêves et de se montrer solidaire. Lelo Jimmy Batista dans Libération, un film étonnant, capable de se montrer à la fois ingénieux et sans prétention, parfois très drôle, bourré d'idées. Le film de Ryo Takebayashi dépasse largement l'exercice de style et impose, malgré quelques traits un peu grossiers, une voix et un ton déjà très affirmés. Céline Roudin dans La Croix, menée tambour battant avec un art consommé du montage. Ce premier film d'un réalisateur et vidéaste japonais a un peu des allures de sitcom. Il se consomme néanmoins avec plaisir, voire une certaine jubilation, comme la satire, qu'il véhicule des mœurs et des frustrations de ses contemporains. Le Journal du Dimanche, un dispositif de huis clos au service d'un film aussi amusant que touchant sur les rêves et les regrets de la vie, éternel recommencement avec la solidarité comme solution. Et Jacques Maurice dans Télérama, hors de quelques éléments éclairant la culture de l'entreprise nippone, cette satire convenue de l'aliénation au travail, qui vante une forme d'épanouissement individuel pour mieux servir le collectif, s'avère pauvre en gags et monotone, comme si le film était piégé par son dispositif même. Ce film proposé au cinéaste avec 2 séances par jour, ce film... Je l'ai vu, Pierre l'a vu également, et on n'a pas le même avis. Au Japon, donc, les employés d'une agence de publicité se retrouvent coincés dans une boucle temporelle et donc revivent sempiternellement la même semaine au bureau. Alors certains en ont conscience, d'autres non. Les enjeux du film sont d'abord, premièrement, convaincre ceux qui ne se rendent pas compte de la situation. Puis, deuxième enjeu, trouver la cause. Et troisième enjeu, sortir de cette boucle temporelle. Alors, le principe de la boucle temporelle, illustré naguère de façon brillante avec le film Un jour sans fin, qui est d'ailleurs évoqué dans le film, c'est d'être répétitif avec quelques variations à chaque redémarrage de la boucle. Mais là, vraiment, on atteint l'overdose, si bien que je reconnais humblement avoir totalement décroché vers la mi-parcours du film et m'être désintéressé de ce film qui reste censément évoquer la monotonie de la vie de bureau, les pressions de la hiérarchie sur les employés et le fait qu'il faut vivre ses rêves et être solidaire. Donc c'est un film en quasi huis clos. Moi, j'ai trouvé ça d'un ennui mortel, dont la durée pourtant de seulement 1h22 m'a paru interminable. Et puis, il y a le jeu des acteurs japonais auquel j'ai quand même du mal à me faire, déconnant dans le registre de la comédie. Là, je trouve que ça surjoue beaucoup par rapport au jeu européen. Mais si on veut absolument positiver, il faut quand même remarquer la qualité du montage. Mais pour moi, ça fait peu. Mais notre spécialiste du cinéma asiatique, Pierre, lui... Il l'a apprécié.
Moi, j'ai beaucoup aimé, oui, c'est vrai. Alors, comme le synopsis le raconte, il y a là une répétition infinie, ou presque, d'une semaine qui débute le lundi. Alors, forcément, il y a en conséquence une répétition des scènes, ce qui peut provoquer un certain ennui. Eh bien, pas vraiment, en fait, pour moi. Il y a dans ce film un rythme très rapide, ponctué d'humour et de musique aussi, celle-ci ayant son importance. L'action se déroule à Tokyo, cela est important aussi pour dépeindre cyniquement l'attachement des Japonais, notamment les jeunes, à leur travail, qu'a voulu montrer le réalisateur, oui, au point de dormir sur place. On notera aussi l'excellente prestation de l'héroïne, jouée par Makita Sports. Alors c'est un drôle de nom pour une japonaise, mais enfin bon. Le film est peut-être répétitif, mais il est court et passe très bien. Et puis je voudrais ajouter que il faut rester pendant le générique parce qu'il y a encore des images à la fin.
Allons bon. Ouais. Eh oui, mais je ne suis pas resté.
Bah non, je sais bien, c'est pour ça que je dis ça.
D'accord,
toi,
d'accord.
Tu ne restes pas pendant le générique, mais il y a un petit peu d'images à la
d'accord.
fin.
D'accord. Et c'est des images qui ont
intérêt. Ayant un rapport avec le film, bien entendu.
D'accord. Ouais. Bon, bah, c'est bien. Alors donc, restez jusqu'à la fin. Ce n'est pas très long, donc vous pouvez rester jusqu'à la fin. 1h22-23. Et c'est au cinéaste avec 2 séances par jour. Et donc, de la VO, bien sûr, comme on est au cinéaste. Neuilly-Poissy. Neuilly-Poissy, c'est un film qui est proposé uniquement au Méga CGR. C'est un film réalisé par, ben, je ne me rappelle plus par qui d'ailleurs, tu vas me dire ça, Grégory Boutboul, pardon, Grégory Boutboul, réalisateur et scénariste. Il a à son actif le scénario de 30 jours max de Andy, et puis il a semble-t-il réalisé un film qui s'appelait Corde à gauche, mais inédit. Voilà, donc Pierre vous en dit plus sur Neuilly-Poissy. 1h33, c'est ça ?
1h33, voilà. Avec Max Boublil, Mélanie Berdier et Claudia Tagbo. Le synopsis, magouilleur et beau parleur, naviguant entre son entreprise florissante et sa vie de famille épanouie, Daniel est un homme comblé. Mais à la suite d'une malversation financière, il doit troquer du jour au lendemain son luxueux appartement de Neuilly contre une cellule de 9 mètres carrés dans la prison de Poissy. Du costard cravate au survêtement claquette, la chute est brutale. Daniel se retrouve perdu dans un environnement dont il ne connaît pas les codes, mais c'est sans compter sur sa tchatche, son humour et son sens inné de la débrouille. La revue de presse, L'Obs avec Xavier Le Herpeur, comédie sociale et religieuse qui s'amuse des clichés et les fractures instrumentalisées par une certaine classe politique, le désir d'un vivre ensemble trouve ici une expression ludique, pataude parfois, surlignée souvent, mais toujours franche et sincère. Catherine Ball pour Le Parisien. On ne croit pas à grand-chose dans cette comédie bancale où il suffit d'un bon repas de boulettes pour que les détenus musulmans se réconcilient avec leurs camarades juifs. Au-delà de ces clichés lourdingues, le personnage de la femme de Daniel est carrément irritant. Et puis Première avec Pierre Lune, on commence sur une histoire d'arnaque, on bifurque vers le film de prison avant d'enchaîner sur un traité de cohabitation religieuse qui s'abolit dans une hypothétique rédemption. Ça ne fonctionne jamais à cause de la caricature, des incohérences, mais surtout parce que, à Neuilly comme à Poissy, les bons sentiments n'ont jamais fait de bons films.
Et nous sommes bien d'accord. Neuilly-Poissy, c'est proposé par le Méga CGR. Daniel, donc, c'est un entrepreneur dans la restauration, un entrepreneur juif. Alors, je le souligne parce que cela a son importance dans le film. Il a tout pour être heureux, et il l'est d'ailleurs. Il a une femme qu'il aime, un gamin adorable, et des restaurants qui tournent, mais il se retrouve un jour devant un juge pour fraude fiscale. Il faut dire qu'il est le roi de la magouille et du travail au black. Voilà. Donc, à ce moment-là, du jour au lendemain, il est donc envoyé en prison, et c'est forcément un choc, d'autant que ses co-détenus sont musulmans. Il va devoir donc un temps cacher sa judéité et faire profil bas, tant ce nouveau monde qu'il rencontre est à l'opposé du sien, mais aussi il va devoir savoir s'adapter. Alors ça commence comme une comédie assez drôle, qui joue sur les clichés, disons que les 20 premières minutes, c'est pas si mal que ça, et puis ça devient un film de prison, qui joue sur les clichés du genre, mais hélas, à trop vouloir rentrer dans le registre de la comédie, le film perd absolument toute crédibilité, à force de bons sentiments, sans la moindre vraisemblance sur le vivre ensemble, comme si cela avait la moindre crédibilité dans cet univers, le vivre ensemble en prison, excusez-moi, mais bon. Donc, au total, une comédie médiocre, même pas sauvée par ses acteurs. Et franchement, là, ça dure 1h30, c'est un peu long, hein, même, je trouve. Voilà, ça s'appelle Neuilly-Poissy, si vous voulez aller jeter un œil, c'est au Méga CGR. Petite pause musicale, eh bien, comme je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de titres dans les films que j'ai vus cette semaine, on est allé rechercher des titres dans Back to Black, et donc dans le générique de Back to Black, il y a une chanson qui n'est pas d'Amy Winehouse, qui s'appelle Song for Amy, c'est Nick Cave, qui est le compositeur de la musique du film, la musique originale, qui chante cette chanson Song for Amy sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
It's time for us to call it a day. say. I'll still love you anyway, baby. Love gives everything. Just to take it away, I'd give you anything for you to stay. But if you go now, I won't stay in your way. But I will think of you every day. Cause I will love you anyway.
Song for Annie, Nick Cave, qui est le compositeur de la musique du film Back to Black, et donc cette chanson l'entend sur le générique de fin du film. Voilà. Blue et Compagnie. Blue et Compagnie s'est proposé au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. C'est un film qui mélange animation et prise de vue réelle. C'est un film de John Krasinski, acteur, réalisateur, scénariste américain né en 1979. Il a à son actif des épisodes de la série The Office et d'autres films qui sont sortis en VOD uniquement. Et puis surtout, on le connaît avec en 2018 Sans un bruit. Le film d'épouvante où il jouait d'ailleurs avec Emily Blunt, et puis 2021 la suite de Sans un bruit 2 avec toujours Emily Blunt lui-même et Cillian Murphy. Et puis on peut vous annoncer, mais c'est pas lui qui réalise, qu'il y aura une sorte de Sans un bruit numéro 3 qui est Sans un bruit premier jour ou quelque chose comme ça, et ça sera à la fin du mois de juin, me semble-t-il. Le film Blue et Compagnie est proposé, je le répète, au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. Pierre.
Durée 1h44 avec Ryan Reynolds, Kelly Fleming et Mylène Farmer.
Ah oui. Oui, alors Mylène Farmer, c'est pour la voix. Hein.
Ah oui, il y a aussi José Garcia.
José Garcia,
oui. Le synopsis. Béa, une jeune fille, découvre un jour qu'elle peut voir les amis imaginaires de tout le monde. Commence alors une aventure magique pour reconnecter chaque enfant à son ami imaginaire oublié. La revue de presse, le journal du dimanche, une pépite pleine de fantaisie et d'humour. Nostalgique, sortez les mouchoirs. Télérama avec Caroline Bess, passablement divertissant et dénué de la sensibilité propre au studio concurrent, Pixar. Le Parisien avec Michel Valentin, joli conte destiné aux enfants et aux adultes qui ont gardé leur âme de minot. L'Obs avec Isabelle Danel, trop long et triste pour les petits, trop vieillot et enfantin pour les ados. Ce film ambitieux, mais pâteau, risque de rater sa cible. À moins que les adultes adeptes de toutes les rêves n'y trouvent leur compte. Et je termine par celui qui n'a pas aimé, Sylvestre Picard en première, multiplication des petits gimmicks d'arrière-plan, censé soutenir le propos, jeu somnambulique de Ryan Reynolds, pathos à tous les étages, au son d'une mélodie entêtante de Michael Giacchino.
Voilà, non, pas vu Blue et Compagnie. Super Lion, c'est un film d'animation réalisé par un tandem, Rasmus Siversten et Jean-Luc Julien. Jean-Luc Julien, c'est son premier long métrage, mais Rasmus Siversten, ce réalisateur et scénariste norvégien, il a à son actif des films d'animation dont peut-être vous avez entendu parler. En 2009, Plody, la voiture électrique, mène l'enquête. 2013, De la neige pour Noël. 2017, Dans la forêt enchantée de Honky Bouki. 2017, La grande course au fromage. 2018, Le voyage dans la lune. Et 2023, Le lion et les trois brigands. Voilà, donc moi je n'ai vu aucun de ces films. Mais bon, ce film Super Lion, il dure 1h17. On peut le voir au cinéaste. Attention, au cinéaste, il y a très peu de séances. Hein. Maintenant, il n'y en a plus qu'une samedi et une dimanche après-midi. Et puis on peut le voir aussi Super Lion au Méga CGR et au Pâté Quinconce. De quoi est-il question dans ce film d'animation ? Evie, 11 ans, n'est pas une fille ordinaire. Elle jongle entre l'école, ses amis et sa passion pour les jeux vidéo. Mais chut, elle a un incroyable secret. Son papa est Super Lion, le super héros le plus cool de l'univers. Ce sera bientôt à son tour de montrer ses pouvoirs et de plonger dans l'aventure la plus folle de sa vie. Préparez-vous, Super Evie arrive. Catherine Ball dans Le Parisien, drôle, inventif, rythmé, ce Super Lion est à la fois contemporain et moral. La jeune Evie est une fan de jeux vidéo, mais elle finit par comprendre que la vie ne se passe pas dans un écran. Surtout, elle réalise qu'elle peut très bien être super sans être Super Lion. Un long métrage très réussi. Xavier Le Harper dans l'Obs, porté par une animation survoltée à défaut d'être inventive et une morale en hommage au girl power, ce film d'animation déborde d'énergie communicative. Samuel Douer dans Télérama, un film d'action riche en humour et en course-poursuite échevelée, qui parodie avec malice aussi bien les récits d'espionnage que les films de sport. Voilà donc de bonnes critiques pour Super Lion, 1h17 pour ce film d'animation, proposé donc par les cinéastes, le Pâté Quinconce et le Méga CGR. Voilà, bon, pas vu bien entendu.
Pas vu.
Non. Wake Up, ça c'est un film français, durée 1h21. Alors il est réalisé par Anouk Wissel, François Sinard et Johan Karl Wissel. Je ne connais pas ces gens-là, mais c'est normal, c'est leur premier long métrage. 1h21 pour ce film, proposé uniquement au Colisée. Alors, un groupe d'activistes s'introduit de nuit dans un grand magasin d'ameublement dans le but de dénoncer les pratiques écocides de l'entreprise. Mais l'agent de sécurité chargé de la surveillance de nuit est un déséquilibré obnubilé par la chasse primitive, entre guillemets. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais bon. La situation dégénère et une véritable chasse à l'homme commence. Eh bien, la presse, qu'en pense-t-elle ? Ils ne sont pas nombreux à être allés voir, mais Télérama, par exemple, déclare que le film est moralement douteux, mais savoureux, car jamais malhonnête quant à ses intentions bêtes et méchantes. Jean-François Roger dans Le Monde, le message politique du film est très vite, et c'est tant mieux dépassé, par le suspense et une brutalité de série B. Mad Movies, la brutalité des mises à mort, même de la moindre blessure, renforce le caractère hargneux de ce slasher survival, presque en vase de clos, conclut sur une touche d'ironie, enfonçant encore un peu le clou, si besoin en était. Bon, je sentais bien que Pierre n'irait pas voir ce genre de film. Je ne suis pas allé le voir non plus, je ne suis pas très motivé par les films d'horreur. Donc sachez qu'il est présenté quand même au Colisée et qu'il dure 1h21. Voilà. Bien, et ben avant de nous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, dans le film Back to Black, on entend les influences d'Amy Winehouse. Donc, on avait passé Dinah Washington, je crois. On avait passé, en tous les cas, des chansons, je ne sais plus, Charlie Basset peut-être. Et là, on entend ce groupe des années 60 de Shangri-Las, The Leader of a Pack. En France, cette chanson avait été reprise par Franck Alamo.
Absolument.
Ah, ça nous rappelle notre jeunesse, ça, hein, Pierre.
Ouais, oui.
Et oui, Franck Alamo, moi je l'avais vu avec mes parents à l'Olympia. J'avais été extrêmement impressionné parce que dans la chanson, The Leader of the Pack, il y a un bruit de moto et il y avait une moto qui était rentrée sur scène.
Ah.
Alors moi j'avais été extrêmement impressionné parce que j'étais tout jeune, moi, c'était pour là, je devais avoir une dizaine d'années, quoi.
Mm-hmm.
Voilà, The Leader of the Pack sur Radio Alpa, le Shangri-Las, un titre qu'on entend dans le film, eh bien dans le film Back to Black.
Leader of the pack. My smile, and kiss me goodbye. The tears were beginning to show. As he drove away on that rainy night, I begged him to go slow. What he heard, I'll never know.
Leader of the Pack, The Shangri-Las, un titre qu'on entend dans le film Back to Black, et en français c'était le chef de la bande. La semaine prochaine, qu'avons-nous à nous mettre sous la dent? Ben déjà, mardi soir, comme c'est le Festival de Cannes qui démarre, eh bien, le cinéma Les Cinéastes proposera dès 20h30 le deuxième acte, le film de Quentin Dupieux qui fait la séance d'ouverture. Au Pâté Quinconce, le film sera projeté également, mais je ne peux pas vous dire exactement à quelle heure, parce que le Pâté Quinconce, lui, fait la cérémonie d'ouverture. Donc la cérémonie d'ouverture, on peut y arriver à 18h50, mais quelle est la longueur de la cérémonie d'ouverture, je n'en sais rien. En tous les cas, le film sera proposé après. En tous les cas, le film sera à l'affiche pour tout le monde à partir du 15 mai, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, le film de Quentin Dupieux, le deuxième acte, avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Raphaël Quenard, bon, etc. Autre film à l'affiche la semaine prochaine, Les Tortues, un film avec Olivier Gourmet. Au cinéaste, il y aura La Morsure de Romain Saint-Blanca. Il y aura aussi Rokia, un film avec Golshifteh Farahani et Jérémy Ferrari. Il devrait y avoir, non pas au cinéaste, mais ailleurs, Les Trois Fantastiques, un film avec Emmanuel Berco et Raphaël Quenard. Les cinéastes proposeront un film d'animation qui s'appelle Les Quatre âmes du Coyote. Le mardi soir suivant, le mardi 21, il y aura l'avant-première de Marcello Mio qui sortira le 22, mais il y aura l'avant-première le 21. Et alors, je ne sais pas s'il y aura un film qui s'appelle The Palace. C'est un film de Roman Polanski qui est annoncé le 15 mai, mais je n'ai vu ni affiche, ni bande-annonce sur ce film. Alors, je ne sais pas s'il sortira ou pas. Bon, c'est vrai que Roman Polanski sent le souffre un petit peu, et donc je ne sais pas si le film aura une grosse diffusion, pas, parce qu'il y a quand même des acteurs connus, il y a Fanny Ardant dedans, John Cleese des Monty Python, voilà, c'est exact ce qu'il y a. Bon, en fait, tous les cas, cette semaine, Pierre vous recommande...
Comme un lundi.
Et moi, ben, de profiter du soleil, parce que je n'ai pas aimé grand-chose cette semaine. Voilà, on se retrouve normalement la semaine prochaine sur Radio Alpa, sur 7.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Thank you.